Merci pour ton appel. Les autres auditeurs sont également invités à nous appeler sur notre numéro de téléphone. Je l'ai rappelé tout à l'heure et je vous le rappelle. Donc, c'est le 001 202 619 31 40. Allons maintenant du côté des Yaoundé où UMS de Loum a remporté la Coupe du Cameroun de football. L'Union des mouvements sportifs de Loum, une équipe de l'Ouest, a remporté la finale de la Coupe du Cameroun de football au terme de la finale qui l'opposait dimanche à la Panthère sportive d'Yaoundé, 2-0. Après une première manche où les deux formations se sont quasiment neutralisées, UMS trouvera finalement le chemin des buts aux 57e et 90e minutes par l'entremise respectivement de Sameli et Etogé, son adversaire qui aura péché par maladresse tout au long de la rencontre, se permettra même de rater un pénalty plus que généreux à la 87e minute, alors que UMS en est à son premier trophée national de l'histoire. Son challenger aura raté l'occasion de garnir son musée d'un troisième titre. La finale de la Coupe du Cameroun de football, présidée par le président Paul Biya, marque également la fin de la saison sportive nationale pour toutes les disciplines. Jules, vous qui connaissez le Cameroun et suivez de près l'actualité sportive de ce côté-là, un mot sur cette finale?
Oui, c'est une coupe qui récompense une cité agricole rendue célèbre dans les années 70 et par le fait que son club de l'époque, l'Ouragan de Loum, avait fourni au canon de Yaoundé à l'équipe nationale le longili et très véloce ailier gauche et Jacques Nguia. Bon, alors c'est donc un retour d'ascenseur qui est le résultat en fait de l'engagement de mécènes et de fils du terroir qui ont misé sur la formation et qui ne veulent pas se mêler surtout aux joutes farouches de leadership qu'il y a dans les capitales économiques et politiques. Et un exemple à suivre pour beaucoup d'amoureux de football et surtout une belle récompense pour une vieille cité du foot.
Alors, Jules, on reste avec vous, je veux dire, pour ceux qui connaissent, pour qui connaît le football camerounais des années 80-90, la finale du Cameroun, ce n'est plus trop une affaire de grands duels du genre Canon-Tonnerre, Union-Racing. De plus en plus de nouveaux clubs accèdent à cette finale. C'est notamment le cas cette année avec cette équipe d'Union des mouvements sportifs.
Oui, mais c'est à l'image de tout le football camerounais de club, disons le football national. Et là, les grandes équipes du passé ont été victimes des luttes incessantes de leadership entre les familles qui les ont créées et les financiers. Et donc, finalement, ces équipes-là marquent le pas. Le cas le plus dramatique est celui du Tonnerre et même celui du Canon qui a failli descendre cette année. Et donc, finalement, les grands clubs se trouvent dans les villes de province où on se reconstitue, où les fils du pays devenus relativement en anti et investissent dans le football de leur département.
Alors, je rappelle à nos auditeurs que le Grand Classico, nous en parlerons tout au cours de cette édition, mais permettez qu'on finisse avec quelques nouvelles de chez nous, du pays, d'Afrique. Donc, on va rester avec Jules pour parler un peu du Cameroun. Il y a une autre actualité, et non des moindres, dont on parle au Cameroun ces jours, c'est cette crise, si on peut le dire, relative à l'élection de Tombi Aroko comme président de l'AFECAFOOT. Le ministre des Sports vient d'annuler la sentence du Comité national olympique et sportif local et confirme Tombi Aroko comme président de l'AFECAFOOT. Et pour rafraîchir la mémoire de nos auditeurs sur le sujet, le sort des élections à la Fédération camerounaise de football a connu un énième rebondissement en fin de semaine dernière, selon nos confrères de Cameroun Voice. Alors, qu'est-ce qui se passe concrètement là-bas?
Oui, non, mais ce n'est que le dernier épisode de la désormais longue crise du football camerounais qui est en fait un problème d'environnement et non un problème de joueurs. Et le moteur principal ici, c'est le nerf de la guerre. C'est une lutte pour le positionnement, être au bon endroit au bon moment dès que les budgets seront libérés. Or, il s'avère que, justement, les 4 années qui suivent là seront très lucratives. Le Cameroun organise la CAN féminine l'an prochain et en 2017, dans 2 ans, c'est la participation probable ici au Gabon. Ensuite, ce sera l'organisation au Cameroun en 2019 et peut-être une participation à la Coupe du Monde. Donc, pour ceux qui ont l'art du positionnement, c'est un jackpot qui se présente. Je peux dire que cela pour tout le reste et ma foi, zappons.
Alors, Salif et Amédine, je vous reprends dans quelques secondes pour le sujet, mais on a un appel de Bamako, de Conakry. On a un appel de Conakry. Kondé, Kondé, qu'est-ce que tu nous dis?
Bonsoir.
Oui, bonsoir, Kondé.
Ah, bon, moi, c'est-à-dire, moi, le contact est de serveur du Classico.
Oui.
Ce n'était pas un Classico digne de ce nom.
Et pourquoi
moi,
tu dis ça?
Merci beaucoup, parce qu'avec le score là, et la main est dans le rêve, il vient me demander la équipe dominée. Moi, j'aime faire vraiment la prestation des joueurs madrilènes. On dirait que des joueurs qui n'avaient pas envie de jouer. Si on trouvait un terrain, il ne devrait pas montrer ça sur le terrain. Il devait résoudre ça entre eux là-bas. Hein? Il ne trouvait pas ça sur le terrain. Non, moi je suis supporter barcelonais. Donc j'aime faire vraiment la prestation des joueurs madrilènes.
Alors, c'est une déception totale pour toi, alors?
Vraiment, vraiment. J'implore, vraiment.
Ben, écoute, il y aura un autre Classico l'année prochaine. Il y aura d'autres. Espérons que ton équipe va essayer de remonter la pente. Merci, Kondé. On va aller du côté du Mali. Allô, bonsoir.
Bonsoir.
Keïta, bonsoir.
Ah, bonsoir.
Alors, toi, j'imagine tu veux parler du Classico aussi.
Bon, j'aimerais parler quand même d'abord du bicéphalisme qui se trouve au sein du football malien.
Tout à fait.
Voilà, vous n'êtes pas sans savoir qu'actuellement, il y a deux fédérations et aussi il y a deux ligues aussi. Donc, suite à ce désordre, le ministre a pris quand même une sage décision de fermer les stades jusqu'à nouvel ordre. Ensuite, il a nommé quand même une équipe de médiation.
Tout à fait.
Jusqu'à ce que les deux protagonistes quand même tombent d'accord sur un terrain d'attente, quoi.
Mais alors, qu'est-ce qui est à l'origine de ce bicéphalisme?
Bon, à l'origine, c'est une crise profonde. Depuis janvier 2015, par exemple, lors d'une assemblée de la fédération, certains membres quand même ont quitté la salle, quoi. Et dès lors, ils ont essayé quand même d'écrire l'État. Bon, l'État peut-être n'a pas rendu la décision, mais l'État a dit vraiment qu'il reconnaît, à mon avis, la fédération de Baba. Mais cela trouve que le ministre avait déjà mis en place une équipe de médiation, quoi.
Mm-hmm.
Bon, c'est cette crise au sein de la fédération qui a joué aussi sur la Ligue de Bamako.
Alors, bicéphalisme au Mali, problème de leadership au Cameroun, Amédine, un mot?
Oui, John, vous avez tout à fait raison, mais moi, pour le Cameroun, je suis surpris par le déroulement des affaires, parce que j'ai eu la chance quand même de couvrir l'Assemblée générale de la FECAFOOT.
Mm-hmm.
Et il y avait le président de la Fédération sénégalaise de football, Maître Augustin Senghor, qui a été dépêché par la CAF et la FIFA pour superviser ces élections.
Tout à fait.
C'était lors de l'Afro-basket féminin. Comme j'étais l'envoyé spécial de mon journal à Yaoundé, j'en ai profité pour couvrir. Et tout s'est bien passé. Et on a eu un président, je ne sais pas pourquoi le comité olympique a décidé quand même d'annuler l'élection. Et je comprends aussi la réaction quand même du ministre des Sports qui a remis quand même le président Uli à sa place.
Alors, Amédine, sans t'interrompre, voici ce que le comité dit. Ce comité estime en effet que les statuts de la FECAFOOT adoptés en juin 2015 n'étaient pas conformes à la loi camerounaise et que par extension, les élections à la FECAFOOT n'étaient donc pas légales. Cette crise à la tête de la FECAFOOT a débuté en juin 2013.
Oui, je dis très bien ça, mais le ministre des Sports ne dit pas ça. Et je pense que le ministre des Sports est la personne indiquée pour maîtriser quand même les lois et règlements de ce pays. Donc il y a un problème. Nous aussi au Sénégal, on a connu un peu de problèmes parce qu'on a eu quand même un comité de normalisation qui a remis le football sénégalais sur les rails. L'auditeur tantôt disait au Mali, c'est la même chose. Je pense qu'il est temps qu'en Afrique, qu'on essaye quand même de faire les choses correctement, parce que ce n'est pas bien que seulement sur le continent africain on entend ces genres de problèmes. Ça n'aura pas l'Afrique, ça n'aura pas également la Fédération camerounaise de football, ça n'aura pas le football camerounais.
Tout à fait, et ça n'honore personne en tout cas. On l'a dit, hein, la grande actualité du week-end, c'était le Classico, le FC Barcelone qui a écrasé donc le Real Madrid. On a à ce sujet Youssouf Ouédraogo de Yamoussoukro, Côte d'Ivoire. Bonsoir Youssouf.
Oui, bonsoir John, bonsoir aux auditeurs, aux fans du Real Madrid ainsi que de Barcelone.
Alors, tu étais fan du Real ou de Barcelone?
Je suis évidemment fan du Real Madrid, donc je suis comme tout autre de la prestation des Madrilènes.
Alors, qu'est-ce qui n'a pas marché chez vous?
Oui, un classico ne se joue pas, se gagne tout simplement, tout naturellement. Et bien que je suis fan, mais sur ce coup, il faut reconnaître quand même le mérite du Barça dans ce classico. À l'arrivée, c'est une déroute lourde de conséquences à mettre à l'actif de l'encadrement technique madrilène qui a presque offert le championnat au Barça, qui aura été maître de son sujet jusqu'au bout face à une équipe du Real Madrid sans armes. Alors, autant dire que la Maison Blanche ne peut que s'en prendre à elle seule. Et je crois que même certains supporters du rival Barcelona étaient aussi déçus de la prestation des Madrilènes. Moi, je fais partie de ceux qui ont du mal à digérer les départs confus au Real Madrid, dont l'ancien coach Carlo Ancelotti, alors, qui a eu le malheur de ne pas remporter le moindre trophée au cours de ce qui est devenu sa dernière saison. Alors, visiblement, avec Benitez, on est bien parti pour être humilié comme ce n'est pas permis, même si la saison est encore très loin d'être fini. Et même si l'on tente aussi de justifier cette mésaventure par les nombreuses blessures que compte en ce moment même le club madrilène.
Tout à fait. Alors, oui, vas-y.
Alors, ce que je voudrais ajouter au-delà du Real Madrid, c'est bravo à l'Africa Sport d'Abidjan sur le plan national qui vient de remporter la Super Coupe ivoirienne ici même à Yamoussoukro. Mm-hmm. Au dépens de l'AS Standard, ça a été un match âprement disputé et je crois que la fédération est en train de diversifier, de décentraliser un peu cet événement qui, ça va faire maintenant 3 ans de suite, si ma mémoire est bonne, que ce trophée se joue ici à Yamoussoukro et ça permet par exemple de délocaliser, de déconcentrer un peu Abidjan qui reçoit pratiquement tout ce qui est sport professionnel officiel.
Alors le score c'était bien 1-0. Merci beaucoup Youssef. On va avoir l'avis de Salif Kabore sur ce classico.
Oui, il faut dire que ce match, je l'ai personnellement suivi de bout en bout. Alors, dès l'ouverture du score par le FC Barcelone, on a vu quelques tentatives de la part du Real Madrid à l'image de Ronaldo, qui à un moment donné donc du match avait commencé par s'énerver, qui demandait donc ou qui réclamait des pénalties. Et je crois que cet état de fait a donné plus de confiance à la formation barcelonaise qui a appuyé sur l'accélérateur. Et cela donc nous interpelle qu'il ne faut véritablement pas dans une équipe se baser sur un seul joueur. Et quand on prend le cas du Real Madrid où le jeu se repose particulièrement sur Ronaldo, et si à un moment donné donc le joueur se comporte de la sorte, eh bien ça donne plus de confiance à l'équipe adverse qui appuie sur l'accélérateur. Eh bien, moi, je pense qu'en grande partie, hein, c'est le résultat de ces essais-là donc, qu'on a vu lors de ce match entre le FC Barcelone et le Real Madrid. Également, il faut rappeler tout simplement que c'est un duel entre les deux équipes qui perdurent depuis longtemps. Et je crois qu'aujourd'hui, le FC Barcelone peut se vanter d'avoir eu raison sur cette formation madrilène, parce que n'oubliez pas que Ronaldo et puis des joueurs comme Lionel Messi ou encore d'autres sont au coude à coude pour véritablement se faire vanter dans le championnat au niveau de ce pays-là. Donc c'est un peu, pour moi, le justificatif du score de ce match.
Alors, Jules, un doublé de Suarez et des buts de Neymar et Iniesta, c'était les stars du Classico?
Oui, bien sûr, et c'est d'ailleurs une des raisons de la bonne performance de Barcelone. En l'absence de Messi pour blessure, Neymar, Suarez et Iniesta en ont profité pour relever leurs prestations et travailler le collectif. Alors que quand Messi est là, l'équipe et l'adversaire s'est barré. Donc à partir de ce moment-là, la donne était changée. Comme on était face à un Real Madrid qui n'arrive pas encore à retrouver sa grande carrure avec l'arrivée d'un nouvel entraîneur et une cascade de blessures. Donc finalement, ça a été la catastrophe. Il faut aussi relever la bonne performance du gardien barcelonais, Bravo.
Alors Ahmedine, est-ce que le Real va se relever de cette humiliation?
On ne sait pas, hein, parce que il y a la crise qui s'annonce, comme vous le savez. Le président du Real, Florentino Pérez, devait tenir une conférence. Je pense qu'il a tenu. Comme vous le savez, Benitez est fixé éjectable. Donc, une crise couvre au niveau de la Maison Blanche. On ne voit pas, on ne saura pas quand est-ce qu'ils vont se relever. C'est très dur. Parce que moi, j'ai l'impression, quand j'assiste à un match Barcelone-Real, de voir une confrontation entre le bien et le mal. Parce que quand on voit cette équipe de chez Barcelone, la philosophie de jeu, la composition de l'équipe, comment ils font sur le terrain, les joueurs qu'ils ont formés, qui constituent quand même le statut de cette équipe, tout ça m'amène à dire que du côté du FC Barcelone, c'est le bien. Alors que du côté du Real Madrid, on dirait que c'est le mal. Parce que malgré les bons joueurs, on ne parvient pas à voir une équipe du Real jouer bien au football. Quand il défie le Barcelone, c'est comme une sorte de bataille rangée. Ils font tout pour pourrir le match. Vous avez vu le comportement de Ramos dès le coup de sifflet de l'arbitre. Il commet une faute sur Suarez. Suarez était à terre. Au lieu d'essayer de le relever en bon sportif, mais il essaie de le centrer tout ça. Des comportements qu'on n'a pas envie de voir dans le football. On a vu Isco qui est entré en cours de jeu, qui faisait un bon match, qui a agressé son joueur. Il est au carton rouge, le public, au lieu de le tuer, et bien le public était content, ils l'ont applaudi. Tous ces comportements me poussent à dire que c'est le Real qui incarne le mal, alors que du côté des Barcelone, c'est le bien, la façon de jouer, la façon de marquer des buts, la façon de se comporter sur le terrain. Vraiment, il y a un problème au niveau de cette équipe du Real de Madrid. Maintenant, les gens utilisent le conditionnel pour dire que Benitez va partir. C'est une question d'heure. Et on pense à Zinedine Zidane pour le remplacer. Même Rivaldo a élevé la voix pour dire que Zidane devait remplacer Benitez. Donc c'est la grande question concernant le Real. Est-ce qu'ils vont se relever de cette humiliation, car ils ont été ballottés dans le monnaie par l'FC Barcelone.
Voilà. Donc, on sait que ça a été un grand classico regardé par plus de 500 millions de téléspectateurs à travers le monde. L'un d'eux, Kaba Kondé, qui nous a envoyé cette réaction sur Facebook, il dit « Ça a été un classico du jamais vu pour moi et je regrette amèrement la prestation des joueurs du Real Madrid qui jouaient comme s'ils n'avaient pas envie de jouer. Je suis supporter de Barça, mais vraiment, ce classico m'a beaucoup déçu. Moi, je m'attendais à un classico qui sera tendu, mais là, voilà. On est arrivé au terme de cette émission et on aurait bien voulu avoir beaucoup de temps. On va dire merci à Nashwan Kale, on va dire merci à Joselle, merci à Georges Léonard Sagno qui était à la production. John Lyndon était à la présentation. Nicolas Pinault vous retrouve prochainement.
Tous les lundis soirs, la Voix de l'Amérique met le sport à l'honneur. Les résultats, les analyses et vos commentaires, chers auditeurs, en direct à 19h, temps universel. Pour intervenir, c'est très simple. Laissez vos messages sur la page Facebook de Sporama ou par mail à fr@voanews.com. À très vite sur le terrain de la Voix de l'Amérique.
L'OTAN est...